Je vous remercie de l'attention que vous accordez. Je tiens à vous remercier aussi d'être aussi nombreux, car en ce moment, dans le contexte actuel, la liberté a besoin de défenseurs de plus que jamais. Et c'est ce qui m'a motivé pour venir depuis Bordeaux vous voir. Je suis venu ici pour établir un dialogue entre vous. Vous êtes appelés à devenir un jour des citoyens responsables pour qu'on envisage ensemble cette nouvelle situation qui n'est que la continuité de ce qui se fait depuis des siècles. Donc, on vous a parlé de la période de Hitler. La période de Hitler, je vais vous en parler. J'ai ici un transparent que j'ai fait spécialement pour vous. Ce transparent, vous le voici. Bien. Hitler, dans sa démagogie, a voulu une race aryenne qui soit la race des seigneurs. Tout ceci, c'est les conséquences de tout ce que vient de vous expliquer votre professeur d'histoire. On a été sans pitié pour eux. La Roure, ça appartenait à la France. C'était occupé par la France. On exploitait leurs mines. La Roure, c'était la province sidérurgique et minière de l'Allemagne. C'était le centre avec lequel Hitler allait reconstituer une armée en partant de zéro. Donc, partant de zéro, en partant d'une armée qui était faite, tenant compte des derniers progrès, des dernières trouvailles, des dernières inventions qui pouvaient lui être utiles pour arriver à ses fins. Je vous dirais qu'avant toute chose, Hitler a, disons, on vous a parlé de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que tous ces revanchards souviennent des anciens militaristes qui voulaient reconquérir l'Europe, qui voulaient redominer le monde de manière à créer une Europe qui soit, comment je pourrais dire, qui soit une Europe à l'image de ce qui se représentait Hitler dans sa démagogie. Il voulait une Europe, le mot m'échappe, il avait un modèle de ce qu'il voulait, la race aryenne, la race des seigneurs, la race qui a fait que le peuple allemand lui-même a été le premier à être fustigé. Il avait des troupes de choc, campagne électorale, oui, d'accord. J'ai, avec mon camarade Guy Châtier, qui a eu l'habitude de venir ici, c'est souvent que je suis en conflit avec lui. Il me dit, les Allemands, ils ont voté, ils ont voulu Hitler. Oui, mais dans quelles conditions? Hitler, systématiquement, avait créé des troupes de choc dont les campagnes électorales ne se sont pas déroulées avec la sérénité requise. Et les ennemis du nazisme, dès qu'ils voulaient faire un meeting, il y avait leurs troupes de choc qui entraient en jeu et de suite, ça finissait dans le sang. Cette troupe nazie, ces nazis-là qui avaient des raisons valables de nous en vouloir, vu les conditions du diktat que nous leur imposaient. Songez qu'on exploitait leurs mines de charbon. Le charbon était pour la France, pour l'industrie, pour la France. Et il y avait les ménagères allemandes qui couraient derrière les camions dans les rues pour ramasser les blocs de charbon qui descendaient. Ça leur permettait de faire chauffer leurs aliments. Il y a eu la misère extrême que vous avez exposé, mon camarade, bon, votre professeur. Il y a eu les soupes populaires. Nous tombons devant un peuple qui est rendu au dernier carat. Il sait que grâce à Hitler, c'est la promesse, Hitler va devenir le maître de l'Europe. Ce maître de l'Europe va avoir à sa dévotion une population aryenne, c'est-à-dire qui prend comme modèle les gens nordiques, grands, blonds, carrés, les yeux bleus, chose qu'Hitler n'était pas, chose que Goering n'était pas, chose que Goebbels n'était pas. Mais il voulait instaurer un régime pour 1000 ans. Imaginez-vous, vous qui êtes tous ici, dans les chaises de cette école, que nous, Français, quand il a conquis la France, en l'espace de 3 semaines, si vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents avaient refusé, avaient eu la pugnacité de faire ce que ceux de votre âge ont déjà envisagé, eh bien, la grande majorité de vous ne serez pas de ce monde, car ils auraient disparu avant. Quant à vous, est-ce que vous croyez que vous seriez là en train d'écouter mes propos? Est-ce que vous pensez un instant quelles étaient vos perspectives d'avenir? Vous auriez fait partie de ce qu'il y rappelle dans Mein Kampf, les Untermensch, les sous-hommes. Cette France qui était notre orgueil, notre France, est devenue plus qu'une expression géographique. Bien sûr que la France, c'est toujours la France, mais elle est divisée, elle est morcelée. Vous allez me dire qu'actuellement, on a des régions qui divisent la France, qui la morcellent. D'accord, c'est vrai. Mais toutes ces différentes fractures du territoire, pour les passer, il faut l'autorisation des autorités allemandes. Les autorités allemandes qui sont très exigeantes pour ça. On peut les passer, oui, moi je l'ai fait, au risque de se faire canarder. J'ai passé du côté de l'Argon, la route, on me dit, il y a les Allemands qui surveillent telle portion de route. Dès qu'ils ont disparu derrière le monticule, ce petit chemin-là, la rivière, c'est la ligne de démarcation. Vous êtes en zone libre. J'étais avec mon vélo. Et j'ai jamais roulé aussi vite. Pour la bonne raison que dans ce petit chemin, j'ai renversé la barre qui était en travers et qui portait un panneau en fer, à peu près comme cette table, où il y avait écrit dessus « Zone libre, ligne de démarcation, zone rouge pendant 200 mètres ». Autrement dit, à vélo, j'arrivais à passer, je passais sur le gazon, sur le côté, et je me suis tellement affolé, j'avais peur bien sûr, que j'ai renversé ce poteau. La plaque en ferraille a fait son affût, et moi, j'ai étalé comme un lapin. J'avais peur que pendant 200 mètres, j'avais encore le droit de tirer sur moi. Ceci pour mon début. Maintenant, quand je témoigne de cette période-là, je ne veux pas qu'on puisse faire l'amalgame des Allemands et des nazis. Que ce soit bien compris, bien entendu entre nous, quand nous sommes arrivés dans les camps, ça faisait 10 ans qu'ils existaient. Et ça faisait 10 ans que tous les Allemands qui étaient opposés au nazisme, des délégués syndicaux, des politiques, des religieux qui ne voulaient pas se plier aux volontés du Hitler, se sont retrouvés en camp de concentration. Camp de concentration. On dit le peuple allemand, est-ce qu'il était au courant de ça? Oui, il était au courant qu'il y avait des camps de concentration. Mais il n'était pas au courant des traitements qu'on leur infligeait dans ces camps. Au début, c'était un camp, si on peut dire, de représailles. D'ailleurs, tant que j'y pense, chaque fois qu'un régime politique a sa police du parti, a des camps de concentration, a des goulags, a des centres de rééducation pour le travail, ce sont des partis où on ne respecte pas l'être humain. Et nous sommes les anciens. Quand on avait votre âge, peut-être un peu plus tard, nous avons formé, si on peut dire, le socle de ce qu'allait être les défenseurs de la liberté. Et j'avais 15 ans quand il y a eu le drame de Guernica. Mes parents, c'était des frontaliers espagnols. Je suis de descendance espagnole. Et quand j'ai appris, comme le monde entier l'a appris, le drame de Guernica, qui a été liquidé, rayé de la carte, en l'espace de 3 jours, par le feu, par la mitraille. Les populations ont été mitraillées sur les routes. Je vous ai dit qu'Hitler n'avait plus d'armée. Il a tout refait avec l'Italie. Ils ont tout refait en tenant compte des derniers progrès. Et la guerre civile espagnole leur a servi de laboratoire grandeur nature. Ils avaient là le terrain tout à fait rêvé pour essayer les nouvelles armes dont ils s'étaient dotés. Et tenant compte de tous les progrès qu'ils avaient faits pour mettre au point une nouvelle théorie de guerre qu'ils avaient surnommée la guerre éclair. Avant, il y avait le front, 14-18, 1 700 000 morts. On se battait au front. Les batailles faisaient rage. Mais derrière, quelques kilomètres derrière, là où n'atteignait pas les obus, on vivait relativement tranquille. Tandis que là, avec l'aviation dont ils s'étaient dotés, les chars d'assaut dont ils s'étaient dotés, et les armes dont ils s'étaient dotés, on n'était plus tranquille à aucun endroit. Et aussi bien la population civile que la population militaire qui crevait dans des conditions parfois misérables. Sur le front, la population civile derrière n'était pas davantage protégée, car grâce à leur aviation, ils pouvaient bombarder, ils pouvaient tuer, ils pouvaient détruire tout l'arsenal militaire, détruire les concentrations, détruire nos armements, détruire nos usines, détruire nos moyens de transport. Autrement dit, mettre un pays à genoux. C'est ce qu'a fait Hitler. La France Nord a été envahie en 3 jours. Ces différentes zones-là je fais rien. Je vais parler. Vous m'entendez? Bon. Ces différentes zones-là, le Nord est rattaché au gouvernement militaire de la Belgique et des Pays-Bas. Ensuite, vous avez ici une zone intermédiaire, ainsi que celle-là, qui est une zone interdite. Seuls ceux qui sont habitants là ont le droit d'y aller. Ici, ce n'est plus la France. Ça a été annexé à l'Allemagne, l'Alsace et la Lorraine. Là, c'est la zone occupée. Là, c'est la zone libre, jusqu'au mois de novembre 1942, où l'invasion des Alliés de l'Afrique du Nord par nos Alliés a fait qu'ils ont pénétré dans cette zone. Ils l'ont annexée aussi. Ça, c'est la zone occupée par les Italiens. Et ici, ce n'est pas noté. Tout le long, il y a une zone ici, ainsi que la frontière espagnole, une zone de 50 km de fond, zone interdite, pour la bonne raison qu'il y a le mur de l'Atlantique et il y a combien de Français qui ont tenté, en passant par l'Espagne, de rejoindre les forces alliées en Afrique du Nord. L'état de la jeunesse. J'avais 15 ans, Gordica. J'ai compris qu'à 15 ans, si on n'était pas en Asie, notre vie, c'était zéro. Ils mitraillaient les troupes qui fuyaient la ville. Et depuis ce temps-là, j'ai pris la décision de combattre le nazisme, de combattre ces gouvernements autoritaires, de combattre ces formations qui ne respectent, qui n'avaient aucun respect d'autrui. Je vous dirais en deux mots lapidaires que ce qui divise détruit, ce qui réunit construit. Et moi, je pense que le nazisme, en faisant ses divisions et ses apartés, était un élément de destruction. Donc, à 15 ans, j'ai pris ma décision. Et vous voyez, j'ai 91 ans. Et je continue, malgré les années, de déportation, malgré les handicaps. Je continue à témoigner. Autrement dit, je suis dans la ligne droite de mon engagement de quand j'avais 15 ans. Vous êtes à un âge où nous, la jeunesse, on a vu débarquer cette armée allemande, cette force qui nous étonnait. Oh, songez qu'il y avait des affiches en France. Nous vaincrons car nous sommes les plus forts. C'est pas vrai. Nous n'étions pas les plus forts car ils avaient mis sur pied des forces blindées et une aviation qui a mis à genoux l'Europe entière en l'espace de 3 mois, s'il n'était pas leur allié. Ceci, dans des cas, je tiens à vous montrer un transparent que j'ai fait, je ne sais plus où je l'ai mis. Je cherche un transparent, je ne l'ai plus.
C'est celui-là, sur le camp.
Non, voilà. Donc,
c'est sur celui-là. Le camp.
C'est celui-là. Voyez, un transparent qui déjà voulait préparer la nouvelle. Non, ça va.
Non, mais c'est devant l'écran.
Qui déjà voulait préparer la nouvelle population arienne. Une population arienne, grand bloc, comme je vous expliquais. Pour cela, il n'a pas hésité à contraindre des femmes à se plier aux volontés des SS pour avoir des enfants ariens. Il voulait modifier la population. Je vous dirais que ça ne s'est pas passé sans peine, sans drame. Et ces enfants, dans le régime ilérien, qu'avait-il prévu? Il avait prévu, vous avez 15 ans à peu près, moyenne d'âge. Ça fait 5 ans que dans le régime ilérien, vous serez dans des formations paramilitaires. Paramilitaires dans lesquelles les Goebbels, les Hitler et les Goering auraient fait l'empoisonnement de votre cerveau. Et vous, les rares survivants parmi vous qui auront à cette époque, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas le savoir, et j'espère que jamais personne ne le saura, lequel d'entre vous aurait su résister au nazisme, lequel d'entre vous, emporté par ce flot de propagande et par ces mesures de coercition, par la peur et par la conviction, ne serait pas devenu nazi. Peut-être que quelques-uns de vous seraient des Nancy actuellement, si Hitler avait réalisé son rêve de 1000 ans. La population allemande a été la première à trinquer. Et c'est pour ça que là, vous voyez, les petits ronds, c'est les centres d'euthanasie. Vous avez des centres d'euthanasie. Autrement dit, dans la population allemande, ceux qui étaient déficients mentalement ou physiquement, supprimés déjà. Nous, quand on est arrivé en camp de concentration, on s'est retrouvé par opposition au régime nazi. On a été balancé en camp de concentration. Je ferai une impasse là-dessus, pas l'impasse carrément, mais je vais réduire ça au strict minimum, car à 2 heures, c'est très difficile de résumer tout. Et je vais. Dans ces camps de concentration, on a trouvé les vieux Allemands qui nous ont mis. Attends, mais je vais pas. Et puis, tu veux un papier. Voilà. Dans ces camps de concentration, donc, il y avait les Allemands, ils étaient là, pour des peines déterminées. C'était parce qu'ils étaient des spartakistes, des communistes, parce qu'ils étaient des délégués de syndicats, parce que c'était des hommes religieux, que leur religion les obligeait à prendre position contre le nazisme. Ils ont été. Et que vous dire? Que tous ces hommes-là, Hitler voulait donc une population strictement aryenne, chose qui n'était pas, lui. Il n'en avait pas du tout le type, aryen. Il était petit, il était brun, avec sa mèche noire à travers les yeux. Vous avez Goebbels, qui était le manipulateur de la population allemande, qui leur empoisonnait le cerveau des théories nazies, qui avait la haute main sur tout ça. Vous avez Himmler, qui était le chef des polices, le chef de la Gestapo, le chef de toutes les contraintes. Vous aviez. Et disons que cette minorité de là, cette minorité de là, en agissant comme il faisait, avait une Allemagne hitlérienne à la fin, quand ils étaient arrivés au summum de ce qu'ils pouvaient être. Ils avaient une Allemagne hitlérienne qui pensait hitlérien, qui agissait hitlérien. Tous ceux qui n'étaient pas hitlériens avaient été soit détruits, soit ils étaient en camp de concentration. L'Allemagne envahie par la France envahie par l'Allemagne, partagée. Tout ce que produit le pays est réquisitionné pour l'occupant. La nourriture. On est obligé d'instaurer des tickets d'alimentation, des points textiles pour les vêtements, des bottes de chaussures à la mairie, il fallait aller les chercher. Tout cela, la population a été réduite à crever de faim. Ce que laissaient les Allemands, c'était ce qu'ils ne voulaient pas parce que c'était de qualité inférieure. Et c'est avec ça que la population française a tâché de joindre les deux bouts, a tâché difficilement. La population française, il y a eu aussi la pourriture, si on peut dire, de ceux qui embrassaient les théories nazies. Il y en avait en France. En France, songez que quand la France a été occupée, il y a eu 2500 membres de la Gestapo allemande et il y a eu 6000 membres de la Gestapo française. Quant à Pétain, suite à la poignée, à l'entrevue de Montoire, où il y a eu la poignée célèbre de main de Montoire, il a mis à la disposition de l'occupant toutes les forces que nous avions. Il a accepté la réduction à quelque chose de symbolique de l'armée française. Il a cantonné la marine française, qui est une marine fort importante et qui, joint à celle d'Angleterre, faisait peur à l'Allemagne. Il a réussi à la cantonner à Toulon. Et c'est à l'invasion de Toulon qu'ils ont ordonné. Il y a quelqu'un qui a ordonné le sabotage dans la marine française. Quelques rares unités ont réussi à s'enfuir. Ce fut tout à leur honneur. La déportation, non décontrôlée. On les mis dans des cas. On les mis dans des cas. Dans ce cas de concentration, c'est là où j'étais envoyé. J'étais arrêté à la frontière espagnole. Pourquoi j'étais arrêté à la frontière espagnole? Parce que pendant un mois et demi, j'ai traîné pour chasser par toutes les polices allemandes et françaises pour aller jusque dans la Haute-Loire, où on m'avait donné les coordonnées d'une personne qui s'occupait d'un maquis. J'ai traîné pendant un mois et demi. J'ai échappé à je ne sais pas combien de rafles. J'ai joué, c'est le cas de dire, avec le diable. Je m'en suis toujours bien tiré, à telle bonne enseigne que je finissais par prendre ça, pas pour un jeu, mais enfin, je disais, on peut toujours les rouler, tant que ça marchait. Et puis, arrivé à ce maquis-là, je suis tombé sur la personne, monsieur Antel, c'est moi qui me dit, je suis envoyé de madame Manet. Il me dit, oui, tu t'appelles Grébol, oui, exactement. Il me dit, fous le camp, nous sommes surveillés. Après un mois et demi de recherche, en mars 43, en mars 43, voyez où elle était la résistance française. Alors, j'ai repris mes clics et mes claques et je suis redescendu par mes propres moyens en échappant autant que j'ai pu le faire aux forces françaises et allemandes. Je me suis retrouvé à Pau, où j'ai fait connaissance deux individus, ça m'écorche de dire que c'était des Français, pourtant c'était des Français, qui moyennant finance, ils m'ont fait payer 3000 francs de l'époque pour avoir des faux papiers. J'ai dit que je n'avais pas les moyens. Je lui ai dit que c'était exagéré ce prix-là. Je n'avais pas les moyens. J'étais un jeune. Il m'a dit, monsieur, si c'est cher, c'est parce que c'est établi sur documents officiels. Alors, j'étais un peu malingre à cette époque-là. Il me dit, on peut te faire passer beaucoup plus jeune, donc tu n'es pas recensé pour aller travailler au service du travail obligatoire pour l'Allemagne. Donc, on te fait étudiant à Pau. Donc, je me suis retrouvé à ville de Pau, étudiant. Les tickets d'alimentation et de nourriture, j'avais réussi à les avoir à Toulouse, en trichant. Les papiers, j'ai donné mes papiers. On me dit, non, souhaite le permis pour passer la démarcation, je n'avais pas. J'ai dit, enfin, je suis recherché par la police, je suis en cavale. La personne qui donnait les tickets a découpé un ticket sur un carnet qu'on avait et avec ça m'a donné tous mes titres d'alimentation et de points textiles et de tout. Pour le mois, tous les mois, il fallait qu'on repasse. Manière de contrôler la population. Et en me les remettant, elle m'a dit entre les dents, au revoir, partez vite et bonne chance. Déjà rien que pour ça, cette femme risquait le cas des femmes de Ravensbrück. Je vous dirai, à titre indicatif, que l'opposition des jeunes surtout, et femmes et hommes, car il ne faut pas oublier que la résistance a commencé surtout par les jeunes. Ça a été le soutien, la base, le début de la résistance. On s'est trouvé les mains nues devant une armée qui a volé de succès en succès et qui a conquéri toute l'Europe. Alors, nous sommes estomaqués, nous sommes peinés, nous ne sommes plus la France qu'on a connue. La France est devenue un domaine des Allemands, où ils font ce qu'ils veulent, où ils décident ce qu'ils veulent. Si on ne veut pas s'y plier, on est contre. Si on est contre, camp de concentration. C'est ainsi que j'ai trouvé deux Français qui m'avaient donné 3000 balles et des imprimés officiels d'après eux. M'ont fait une fausse carte d'identité. Fausse carte d'identité, comme si c'est un document officiel, il te faut deux photos. Retenez bien ça, deux photos. Interne, je suis porté 2 ans plus jeune. Je ne suis pas recensé encore à ce moment-là. Et je suis interne dans un établissement scolaire de Pau, où le directeur, encore une fois, m'accorde 3 jours de congé suite à un télégramme, qui est faux aussi, émanant de Cambo, qui est zone interdite, et qui me dit « Venir au plus vite, tente au plus mal ». C'était un centre où on soignait les maladies pulmonaires. Et c'est avec ça qu'ils m'ont dit « Bon, mais maintenant, avec ça, tu vas à la commandanture allemande pour te donner un jouet, parce que Cambo, c'est dans la zone interdite. » Alors j'ai été porté mon jouet. J'ai bénéficié de complicité. Il y avait des Français, disons le mot, qui étaient de vrais salauds. Et il y en a eu qui ont été des sauveurs, à qui je dois la vie. La population est très mélangée. Chacun se méfie de tout le monde. Il y a des dénonciations. 1 800 000 Français qui sont prisonniers en Allemagne. Qui c'est qui reste pour faire marcher le pays? Les personnes âgées qui ne sont plus sous les armes, les jeunes comme vous, dont les écoles souvent ont été supprimées, et les femmes qui remplacent les hommes et qui font des travaux qui les dépassent souvent. Et c'est grâce à cette population-là que le pays, pendant 4 ans, a tourné. Pendant 4 ans, il a crevé de faim. Pendant 4 ans, il a vécu sous l'autorité et la complicité d'un Pénien, d'un Pétain, d'un Laval et consorts, des Debrinons, de tous ces, toute une racaille qui était l'extrême droite, toute cette racaille qui actuellement, attention, est en train de remonter en puissance. Avec les événements actuels, vous devez vous en rendre compte. Il y a eu, et je prends le train, quand j'ai eu mes papiers, ils m'ont dit, bon, tu prends le train de demain de telle heure, tu vas à Cambo, tu achètes tel bouquet, tu reconnaîtras ton pasteur, il aura le même livre que toi. Alors, moi, tout content, pensez si je suis heureux. Demain, je vais être en Espagne et je vais passer aux forces alliées. Moi qui rêve de me bagarrer contre eux, je vais être utile à quelque chose. Et hélas, quand il passe le contrôle de sécurité allemand dans le train, il arrive dans le compartiment où je suis tout seul. Papier, on peut parler, je me sens tranquille, imaginez-vous. J'ai même un papier des autorités allemandes qui me donne le droit d'aller jusqu'à Cambo. Je lui donne tous mes papiers. Il regarde mon nom, Grébol, il y a de son portefeuille, il y avait 6 ou 7 photos, comme qui me dit. Voilà. Et voilà pourquoi j'ai payé 3000 francs, c'est 2 salauds. Donc, éternel citadel, c'est Jean-Pierre-Port. Ça a été un peu ma sauvegarde. Parce que quand on arrêtait quelqu'un d'une filière quelconque ou d'un groupe quelconque, on le cuisinait souvent de manière un peu trop excessive, un peu trop rude, selon des manières qu'avaient mis déjà en pratique les services nazis pour réduire à merci les Allemands qui étaient contre eux. Donc, citadin de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est devenu un collège, de là, caserne Boudet à Bordeaux, de là, centre de regroupement Royal-U à Compiègne. Compiègne, je ne vous dirai pas que c'était un club méditerranéen, mais on n'avait que deux appels, un le matin, un le soir. On crevait de faim, bien sûr, mais enfin, on était libre d'aller, on venait, on discutait entre nous, on rêvait, on bâtissait une Europe nouvelle, on bâtissait un monde nouveau, et on espérait tous. Et là-dedans, après, de là, partent les convois pour l'Allemagne, pour les camps de concentration. La ville de Compiègne, le trajet qui doit être accompagné et qui doit être pris par ces déportés, tout doit être fermé, les fenêtres, les portes. Malgré cela, on est sûr que la population, d'une manière ou d'une autre, est aux aguets. On nous met en rang sur cinq, encadré par la Wehrmacht, avec des chiens. Et on traverse la ville de Compiègne. On traverse la ville de Compiègne, on est gonflé à bloc. On chante la Marseillaise. On ne la chante pas. On la gueule pour que toute la ville en résonne. Et pour faire bonne mesure, moi qui suis à politique, avec les autres, j'ai gueulé l'international. Et quand on était, bien sûr, ça mettait en colère le garde-chaule, qui nous bourrait de coups. Un coup de botte, un coup de crosse, un coup de poing. Et arrivé à gare de Compiègne, on dépasse la gare des voyageurs. On va plus loin. Il n'y a plus de quai. Le sol, le train est formé. C'est des wagons de marchandises. Et en dernier, il y a un wagon plateforme avec des armes automatiques. Et dessus, il y a des SS, des Wehrmacht qui prennent place. Donc, on nous emballe dans ces trains, en dehors du quai d'embarquement. Moi qui ai 20 ans à l'époque, j'ai aucun problème pour sauter dedans. Mais ceux qui sont âgés, ceux qui sont déficients physiquement, ceux qui sont trop âgés, eux ont des problèmes. Ils reçoivent des coups. On les aide autant qu'on peut, mais ça n'empêche pas les coups de pleuvoir. Et c'est ainsi, on nous a mis un maigre ravitaillement, une tranche de pain, et c'est pour deux jours. Deux jours sans ravitaillement et sans pain, et sans eau. On arrive, tant qu'on est à gare de France, en France, il y a eu une tentative d'évasion. On ne sait pas si il y a eu ces morts, on a entendu crépiter les armes. Ils ont arrêté le train, ils ont ouvert tous les wagons, et on nous a supprimé nos chaussures. Donc, sauter un train en marche sur un balance pieds nus, ce n'est pas possible. Et avant de monter dans ces wagons, dans ce convoi, où on a été, comment je dirais, accompagné à coups de pied, à coups de à brutalité, on a été enfourné là-dedans. Il y avait écrit dessus, je me rappelle, j'étais gamin, je voyais ça, « Homme 40 chevaux, 8 anneaux ». On nous mettait jusqu'à 100 dedans, 100, 110. On pouvait juste à peine tenir debout. Et après avoir reçu un tel accueil pour entrer dedans, un tel embarquement, il y en a un qui rentre les poings en avant ou la crosse en avant, systématiquement on s'écarte pour éviter les coups. Eh bien, cet espace libéré servira à poser ce qui servira de tinette pendant le transport. C'est là déjà qu'on subit la première déshumanisation. Cette tinette qui est constituée par un bidon de 100 litres de carburant coupé en deux, c'est pour la tinette pour le trajet. Et c'est ainsi qu'après, ô combien d'efforts, on est obligé, publiquement, devant tout le monde, de satisfaire à nos nécessités physiologiques. On roule. tant qu'on est en France, on a toujours un maigre espoir. Mais on arrive en territoire allemand. Et les noms des gares, la consonance allemande, c'est fini. De temps en temps, quand même, dans notre wagon, on a réussi à établir des tours de ronde. Il y a 4 petites fenêtres, barrotées et entortillées de barbelés. On arrive à faire des tours de ronde là-dedans, de manière à ce qu'un minimum, que chacun ait un minimum d'air pur, car l'atmosphère est revenue irrespirable. Il y a déjà des morts. Il y en a qui dépendent d'un traitement qu'ils n'ont plus depuis qu'ils sont arrêtés. Et après 2 jours, on arrive en gare d'Oranienburg. Oranienburg. On nous descend en dehors de la gare, de l'autre côté de la gare, dans des voies de garage. Il n'y a pas de quai. Et là, on est pris en charge. On arrive, il fait encore nuit. On arrive, il y a des projecteurs qui éclairent. Il y a des SS avec des chiens, des SS qui ont reçu un enseignement spécial. On les distingue des autres SS aux têtes de mort qu'ils portent sur leur revers. Et on s'en va. Un coup de chance, il y a la pile de godasses qui est par terre dehors. Je retrouve mes brodequins de montagne qui étaient attachés par les lacets. Un coup de chance, ils étaient là, on aurait dit qu'ils avaient mis esprit pour moi. Mais il y en a qui ont fait 2 kilomètres à pied le jour commence à peine à se lever. Et les rares personnes qu'on voit nous insultent en allemand. On s'en fout, on ne comprend pas. On arrive au camp de Oranienburg, le camp de Saxe-Lauzel. On a descendu dans la ville d'Oranienburg et à 2 kilomètres, il y a le camp de Saxe-Lauzel. On arrive. Je vais vous expliquer le camp de Saxe-Lauzel. Je parle fort. Ah bon. Le camp de Saxe-Lauzel, le camp, la partie du camp réservée aux détenus, c'est ce petit triangle-là que vous voyez. 29 hectares, il fait. Un mur, 2,80 m. En haut, une frise de barbelés. À peu près cette largeur. Une nouvelle barrière de barbelés électrifiée. Entre ces deux barrières, des miradors. 9 miradors, plus un 10e qui surplombe l'entrée, où il y a un portail en fer, où est écrit en allemand « Le travail libère l'homme ». On le comprendra plus tard. Il y a toujours une âme généreuse pour vous dire que par le travail, c'est le principal moyen de destruction de l'homme et qu'on sort par la cheminée qui ne cesse de fumer le crématoire. On rentre là. On nous met, excusez-moi l'expression, je vais être un peu cru, mais c'est la réalité. On nous met à poil. On rentre dans une baraque. On nous a pris tout. Nos valises, les bagues, les bijoux, les photos, les chaînes, tout est pris. Ça fait partie du butin de guerre. Un premier aperçu. Et on monte sur un escabeau, un détenu sous le contrôle des SS avec des tondeuses électriques, il nous rase des chevilles jusqu'aux cheveux. J'ai témoigné pendant 10 ans avec une rescapée du camp de femmes de Ravensbrück. Les femmes qui avaient une chevelure qui avalait la peine, leur chevelure était récupérée, mise en sac de 50 kilos, de 40 kilos, c'était envoyé à une fabrique de feutres. Et avec ce feutre, on doublait les manteaux en cuir des officiers supérieurs pour qu'ils soient les plus confortables. Les femmes et les hommes, même traitement. On ne s'occupe pas que c'est les femmes, que de par leur constitution physique, elles sont moins résistantes que les hommes, même traitement. On est là pour une mort programmée. les essais sont calculés, que les conditions de vie qu'on nous imposait, la conjonction de tous ces moyens qu'ils usaient pour nous détruire, faisait que l'être humain normal, en 9 mois, était liquidé. Mais que dans ces 9 mois, soit travaillant pour les SS, soit loué à des firmes allemandes qui payaient aux SS. Et bien chaque détenu, au bout de ces 9 mois, s'il n'était pas encore crevé, il avait déjà rapporté 600 marques. On parle du trésor SS, il existait. 600 marques. Et ceux qui travaillaient dans des usines pour la SS, ils gagnaient encore beaucoup plus. Donc, le cas de Sacré-Lozère, voilà. Voilà le triangle où sont les détenus. Ici, vous avez une chenille, 2000 chiens qu'on dresse. Pas des chiens d'agrément, ni d'accompagnement, de compagnie, non. Des chiens dressés pour attaquer l'homme. Il y a des ateliers de réparation. Il y a des ateliers de menuiserie où la main-d'œuvre, qui est à l'œil pour eux, est employée généreusement. On construit des tables, on construit des tabourets, on construit des placards, on construit des baraquements. Et avec tout cela, des baraques ont été prévues au début pour 200 hommes, 200 personnes. À la fin, on s'y retrouve à 600 dedans, pour vous dire quelle promiscuité. Toutes les races sont mélangées. Il y a jusqu'à une vingtaine de nationalités là-dedans. Il y a tous ces gens qui ne se comprennent pas, souvent c'est source de malentendus. Le sanitaire qui a été prévu pour nous, ça nettement insuffisant. Le matin, la toilette, une poignée d'eau pour les plus chanceux. Et pour les autres, mais on verra demain si on peut en attraper une. Pas de savon, pas de serviette. On s'essuie avec la chemise, ça, pour avoir un peu d'eau. Ou avec la veste. Une fois qu'on est tendu, on passe, disons qu'à l'espace d'une heure, ils vous ont totalement déshumaniser, enlever votre aspect d'être humain. On est d'abord dans une baignoire avec un détenu qui vous enfonce la tête dedans. C'est avec un désinfectant pour lutter contre les parasites. Eh oui. Ensuite, on le fout dehors. Ce produit qu'il fout dedans, c'est ce qu'on a employé pour imprégner les traverses, pour éviter les champignons et les bestioles de les attaquer, les traverses chemin de fer. On nous donne à la volée dans notre baraque, on nous fout dehors à sécher. On n'a rien pour se sécher. C'est au mois d'avril, et quand on arrive dans le Brandebourg, là-bas, près de la Baltique, à 4-5 heures du matin, et bien en avril, il fait encore froid, croyez-moi. Ensuite, on nous distribue des vêtements, sans s'occuper de votre travail, ni rien. On s'arrange entre nous après pour avoir quelque chose qui soit mieux à nos dimensions. On vous donne une veste, un pantalon. Les femmes, j'ai témoigné 10 ans avec une, c'est pour ça que j'en parle. Une robe et un sous-vêtement. Pour les hommes, en plus, un caleçon et une chemise. Des galoches en toile avec une semelle de bois et 2 bandes avec des matricules. Merci. Ces bandes avec les matricules, les voilà. La couleur vous indique votre qualité de détenu. Ça, c'est les détenus politiques allemands qui, grâce à eux, combien des nôtres ont eu la vie sombre. Ça, c'est les politiques français. Et chaque nation a ses politiques avec l'initiale de son pays. Ça, Et plus le... Qu'est-ce que c'est?
Le droit commun. Le droit commun.
Les oui, verts. C'est les droits communs.
Les verts.
C'est les verts. Les droits communs, verts, les verts. Parce que Hitler, quand il a créé les camps de concentration, il en a profité pour y mettre toute la racaille allemande qui croupissait dans les centrales allemandes, des femmes comme les hommes, des femmes déshumanisées, des femmes qui avaient des qui étaient des criminelles, des femmes qui avaient perdu tout sens moral, qui n'avaient plus de morale. Et c'est dans cette faune-là qu'il a puisé les plus nocifs, les plus barbares, pour nous servir d'encadrement aux politiques. Cela... C'est les politiques juives, deux triangles inversés, un rouge et un jaune. Là, c'est les homosexuels. Là, c'est Témoins de Jéhovah. Tzigane, cela, oui. Cela, Témoins de Jéhovah. Témoins de Jéhovah, un mot. Les Témoins de Jéhovah, de par leur religion, refusent de porter une arme. Ça leur est interdit de toucher une arme à feu. Et donc, ils refusent de rentrer dans l'armée allemande, dans la Wehrmacht. Les femmes, Témoins de Jéhovah, ont refusé de travailler dans des ateliers dans lesquels on les confinait pour faire des tenues. C'était pour habiller des soldats. Donc, on n'y touche pas. Ils ont été maltraités, anéantis aux trois quarts. Les rares qui ont survécu à ça, quand ils ont réalisé à quel point ils avaient le sens de... Comment je dirais? Le sens de l'honnêteté. Et que c'était des gens à qui on pouvait faire une confiance absolue. Ce sont les SS qui se sont pris pour s'occuper de leurs mouflés. Ce sont les SS qui les ont pris pour s'occuper des gens de maison, pour s'occuper de leur maison. C'était des gens d'autre confiance. C'est leur religion qui exigeait ça d'eux. Donc, après... Oui, 3h15. Bon. Donc, ensuite, quand on fait un CK, je vais vous parler, le cas de concentration, je vous avais parlé. Il y a un différent. Et les chalis, le sanitaire est nettement insuffisant. C'était prévu pour 200, on se retrouve à 600. Le matin, on se précipite de torse nu. La journée d'un déporté, je vais vous dire. Soyons logiques. Le matin, d'abord deux catégories, ceux qui travaillent dans les usines pour l'armement et ceux qui travaillent en plein air, dans les travaux de plein air. Ceux qui travaillent dans les travaux de plein air, le matin, levé entre 4 et 5 heures. On fait son lit au carré. Quand un lit est fait au carré, après avoir reçu quelques coups de bâton, parce qu'il n'est jamais assez au carré, avec des paillasses qui sont faites avec des copeaux de bois, imaginez-vous, celui des chalis, ils sont sur 3 étages. Celui qui fait la combat au 3e étage, pour faire un lit au carré, il a reçu quelques coups de bâton. Il y arrive. Ensuite, on va chercher un café. Le café, ça a une qualité, c'est chaud. On ne sait pas avec quoi c'est fait. On appelle ça le café. Après, appel. Tous les matins, quel que soit le temps, la température. 1 heure d'appel. En hiver comme en été. Combien de nos camarades de misère sont morts de maladies pulmonaires qu'ils ont attrapées dans ces putains d'appels, il n'y a pas d'autre terme. Et ensuite, on va former le commando. Le commando, ce sont les différentes équipes de travail qui se reforment pour partir sur le lieu de travail. encadré par les SS et encadré par les droits communs, qui, les triangles verts, qui, eux, ils sont là. Quand quelque chose ne va pas, le SS ne s'adresse pas aux détenus. Il va trouver le capot ou le forabaiter, ce bandit de prison, et il dit, celui-là, ça ne marche pas, intervient. Combien il y en a des nôtres qu'on a ramené le soir dans la brouette suite à la bastonnade. S'il n'était pas mort, il avait eu quelques heures à vivre. Après, le midi, on a demi-heure pour la soupe. La soupe, que je vous en parle. Un bouteillon de 50 litres de flotte. 50 litres de flotte où sont coupés à petits dés des tubercules fourragères. Il y a à peu près un travers de main au fond du bouteillon. C'est la soupe. Ensuite, demi-heure. Si on n'est pas content et qu'on râle parce que pour ceci ou pour cela, eh bien, quand ça le tienne, vous prenez un coup de louche, le repas est terminé pour vous. Et on va jusqu'au soir. Le soir, on rentre. Comme c'est une firme de cellulose, on essaye, en rentrant, à faucher une petite bûche. Ça servira à alimenter le poêle pour chauffer la baraque. Les baraques sont en bois, sans aucune protection. Et c'est... On rattrape la bûche, on rappelle. Mais comme après, il n'y a pas la notion de travail, l'appel, pour une raison quelconque, et Dieu sait si c'est l'esprit imaginatif, pour trouver des raisons de nous punir, qu'ils appellent. L'appel peut durer 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et après, on nous sert à manger, le repas du soir. Le repas du soir. Imaginez-vous un pain format pain de mie, qui est fait avec tout un tas de farine, sauf du blé, il y en a besoin pour la soupe. Et sauf le sarrasin et tout ça. Et avec ce qu'ils appellent du pain, ce petit pain comme ça large, c'est pour 7. Ça partagera en 7. C'est accompagné de noix de margarine, d'une cuillerée de compote de pomme ou bien d'une demi-rondelle de saucisson. Je ne parle pas des brutalités qu'on reçoit, la faim qui nous tenaille, les maladies, l'organisme qui, par affaiblissement, a perdu toutes ses défenses naturelles, si bien que la conjonction de tous ces moyens qu'ils ont employés fait que dans 9 mois, un homme normal est détruit, un homme ou une femme. La nuit. Alors, ce qu'on nous sert à manger, c'est ridicule. D'après les SS qui ont vu sur un bal large, ça représente 900 calories. Pour résister à des températures telles que j'ai vu des chargements traverser la Varta, la rivière, au lieu de passer par le pont, quand ils n'ont pas compris, ils passent sur la glace, sur la rivière. C'est le crématoire. Le mort de la nuit doit être présent à l'appel du matin. C'est ses camarades de Chani, les Chani. Ils sont sur 3 étages. Les Chani sont sur 3 étages. Et voilà. Alors, chacun, en principe, c'est pour dormir. C'est pour une personne, c'est tout. La longueur de l'homme, plus étroit que la table. Une paillasse faite avec des copeaux de bois. Et on se couche. Vous croyez que vous allez dormir? Non. Car manque d'hygiène entraîne la crasse. La crasse entraîne les parasites, les poux de corps, entre la Vermille, la gare. Donc, quand vous rentrez dans le, dans votre, sous votre couverture, les parasites et la Vermille mettent le couvert, croyez-moi. On passe à lui à se gratter de tous les côtés. Ensuite, il y a des gens qui ont attrapé les maladies pulmonaires avec ces appels prolongés. Ils toussent toute la nuit. Il y a d'autres qui vont se disputer, ils ne se comprennent pas. Ça n'arrange pas les choses. Il y a d'autres qui ronflent, que je voulais y faire. En fin de compte, à ce régime-là, quand on arrive vers 2 heures du matin à peu près, on est écrasé. Écrasé de fatigue, écrasé de sommeil. Et on disparaît dans ce qu'on pourrait penser être un sommeil et qui n'est qu'une épreuve supplémentaire. Parce qu'au bout de 2-3 heures, le réveil sonne et une nouvelle journée commence. Qu'est-ce qu'on a fait là-dedans, dans ce cas? On travaillait là. Il y avait l'infirmerie. L'infirmerie où on n'y allait pas. C'était à côté du crématoire et on connaissait très bien le processus. Bon, et vous y alliez. Il fallait passer un contrôle. Qui faisait le contrôle? Quelqu'un d'incompétent. Et j'ai mon camarade Guy Châtelier qui venait ici. Il a eu un Ukrainien qui avait un anthrax à la gorge comme ça. Quand il s'est présenté, celui qui était chargé de choisir ce qui serait admis à la consultation, il y a fini un grand coup de poing, le lendemain il était mort. C'était ça. Que pourrais-je vous dire de plus? Vous parlez. Ah, les châtiments corporels. Chaque fois qu'on faisait quelque chose qui était interdit, et Dieu sait s'il y avait des interdits, on avait droit à un châtiment corporel. Ça pouvait aller de 25 coups de sangle sur le cul jusqu'à la pendaison ou l'assassinat par balle. Là, alors, les châtiments corporels. Vous aviez eu une réaction quelconque, ou une grossièreté, vous n'aviez pas obéi au doigt et à l'œil, à l'ordre donné, châtiment corporel. 25 coups de chaque. 25 coups, c'est quasiment un minimum. On y va. C'est pas comme vous avez vu sur la première gravure. C'est un détenu qui applique les droites, disons. Les droits qui appliquent les coups de schlag. La schlag, c'est, ici, ce sera une aire de bœuf. Là-bas, c'était un morceau d'un 1 mètre à peu près de gros câble électrique. Ou bien un bout de tuyau d'arrosage bourré de sable et fermé par une ferraille au bout. Alors, on attachait le malheureux sur une table en pain incliné, les bras attachés au bout là, les pieds attachés là, le pantalon sur les chevilles, et il y avait un détenu polonais. C'était son travail. À longueur de journée, il faisait ça, aligner les coups de charge sur le cul des malheureux. Sous le contrôle des SS. Et le malheureux qui était attaché, il fallait qu'il compte analement les coups qu'il recevait. Parlant de compter, de chiffres, j'ai oublié de vous le dire. Le jour qu'ils m'ont donné ma défroque, ils m'ont donné 2 bandes de tissu avec mon numéro et le triangle de ma catégorie de détenu. Et à partir de cette seconde-là, je ne m'appelais plus Jacques Grébon. Je m'appelais le 6000 Verunderreich. À retenir immédiatement. Car si on ne vous appelait pas votre nom, si on ne répondait pas, il y avait un capot avec la trigue qui se chargeait de vous faire répondre. Non. Quand on a fini, où j'en étais.
Les châtiments corporels.
Ça peut aller jusqu'à la patte des gens, ça peut aller jusqu'à par balle. C'est la distraction du dimanche. On fait un pendu à pratiquement tous les dimanches, à grande pompe, devant tout le quart réuni, on le peint. Il a son grand carton accroché sur lequel est écrit la raison pour laquelle il a été condamné à mort. Et il est pendu. Ça fait partie de la distraction. Tout le monde doit défiler, le regarder. Et c'est ainsi qu'après on peut rentrer si on nous fout la paix dans notre commando. Je vous dirai que dans ces cas de concentration, entre les dégâts faits par le régime qui nous est appliqué, les châtiments et les barbaries qu'on a subies, la moitié de ceux qui ont été en cas de concentration sont morts des mauvais traitements là-bas. Ça, j'aurais dû en parler quand on a quitté Compiègne.
Non, ça c'est le chemin de la mort. Après, l'évacuation.
Je vais vous raconter. Après, il y a eu... Quand on a... Dans les cas, nous avions l'esprit de la résistance. Nous n'avions pas les moyens, mais nous avions la tête. On voulait faire quelque chose. Moi, j'étais dans une usine de cellulose. On recevait des traits d'agrumes, des billes de bois comme ça grosse à peu près 2 mètres de long. On est passé aux broyeuses. Des broyeuses, la broyeuse c'était un disque de 2 mètres de diamètre qui tournait à 20 et quelques mille tours minutes avec des fenêtres comme ça où étaient branchés dessus en superposition des couteaux qui arrivaient de Solingen, épais comme la main, et qui vous débitaient un billon de 2 mètres, 3, 4 secondes, c'était limité à petit coups comme ça. Et ils faisaient la pâte à papier avec, qu'ils utilisaient à des tas de choses. À quoi on travaillait aussi? On travaillait à l'agrandissement de cette usine. Alors là, par n'importe quel temps, n'importe quel froid, sous un capot bien habillé, bien couvert, on avait droit à nos coups de trique si on essayait à se récupérer un peu de chaleur. Là-dedans, le parc à bois. Les wagons arrivaient de jour comme de nuit. Il manquait de matériel roulant. C'était détruit par la guerre. Alors, le convoi arrivait, s'il arrivait de nuit, on nous réveillait, on réveillait les SS qui n'étaient pas du tout contents non plus, avec des loupiottes, et nous accompagnaient à la rampe de déchargement. On jetait le bois par-dessus. Quand c'était du bois flotté de Finlande, 4 mètres de long, il faisait, en gelant, l'eau avait ressorti, avait transféré du bois, même le pic en ferraille qu'on avait pour les manipuler, n'y mordait pas dedans. On se cassait la figure tant et plus. Et on jetait le bois par-dessus bord. Et après, 2 heures après, à la minute près, la locomotive revenait pour amener le train. Et, comme tout un chacun, je n'en tire aucune gloire. Parce que ça se faisait de la manière qu'on était organisé, on ne courait pas de risque. Quand on dégageait la voie, des billons qui avaient roulé dessous, on soulevait les clapets des boîtes de graissage des essieux, des wagons, et ils se sont rendus compte, au bout de pas mal de temps, que les trains qui revenaient de notre usine de cellulose, tous ils avaient des problèmes de roulement. Alors, comme ils en manquaient, un jour, on nous a réunis. Et on a commencé à nous faire le baratin avec des menaces. Et on a réussi à leur faire avaler une couleuvre grosse comme une maison qu'ils ont bien voulu avaler, que je vous explique. Il y a le cas de Sachsenhausen qui fait le règlement pour tout l'univers concentrationnaire nazi. Même les cas de concentration qui sont dans des pays occupés. Et on leur a expliqué qu'en jetant le bois pouvait rebondir, faire soulever un couvercle et puis ensuite le sable que j'ai qui les autres m'a jeté rentrer dedans. Ils ont bien voulu. Pour quelle raison? Parce que le règlement est le même pour tous les camps. Mais il varie d'un camp à l'autre en fonction du travail qu'il y a à accomplir, en fonction du degré de déshumanisation du chef de camp, en fonction de la barbarie qu'ils ont, nos sujets qu'ils ont tirés des prisons et qui nous encadrent. Et ils ont bien voulu parce que, eux, j'étais dans un petit commando Kusrine, à 80 km, au confluent de la Varthe et de l'Oder. Et eux, ça allait s'arranger. Parce que chaque fois qu'il y avait un délit, ils devaient remonter au grand camp. Au grand camp, ils étaient jugés. Le trois quarts du temps, minimum, c'est un coup de sang jusqu'à la panne des gens. Vous avez vu. Mais, si tout se passait sur place, sans que ça remonte au grand camp, nous, on risquait y gagner. Une peine plus légère, peut-être sauver sa vie. Mais eux, l'équipe de SS qu'il y avait là, pour nous garder, s'il y avait trop de désordre, l'équipe entière était envoyée au front de Russie, une autre équipe prenait sa place. Alors ils étaient bien mieux à garder des détenus sans armes, sans aucune défense, à les faire crever là, qu'à risquer de crever eux sur le front de Russie. C'est ainsi que ça s'est passé. Alors, bien sûr qu'après, on faisait attention, on ne sabotait plus pendant quelques temps, on a pu saboter les trains. Mon camarade Châtelier, qui n'a pas pu venir quand on son état de santé, lui, il était dans une usine où on fabriquait les Henkel 117. C'était un bombardier quadrimoteur qui, sur le papier, faisait peur aux alliés. Tellement son rayon d'action était étendu, tellement la charge de bombes qu'il pouvait emporter, et tellement les postes de défense étaient nombreux dessus. C'était ce que les Américains ont appelé par la suite les forteresses volantes. Ça venait un peu de ça. 2000 Français sont dans un rôle, travaillent à la chaîne. Ces 2000 Français, pas plus que vous que moi, connaissent rien à la mécanique. Alors, on a attrapé parmi les détenus, il y a quelques-uns qui sont dans la partie. Il y a même eu un avionneur, Marcel Dassault, qui disait à cette chaîne, 2000 Français, là tu fais ça, là tu fais ça, là pour saboter tu fais ça. Il y avait toute une succession de sabotages. Il fallait faire des sabotages qui sont incontrôlables, à bout de chaîne, mais qui, avec le temps, fasse ses ravages. Ils ont tellement bien réussi que ces appareils qui faisaient peur, au bout de quelques temps, les pilotes allemands n'en voulaient plus. Ils les appelaient des cercueils volants ou des briquets volants. Ils s'enflammaient. Les commandes qui ne correspondaient plus. On brûlait dans les faisceaux de fil électrique. On a brûlé un ou deux avec quelques gouttes d'acide chlorhydrique. Alors ça ne répondait plus aux commandes. Alors ces avions en combat n'étaient plus contrôlables, donc ils étaient abattus, ou bien alors ils n'arrivaient plus, ils atterrissaient sur le ventre, le train d'atterrissage ne sortait pas. Après quoi c'était? Attends, quand l'usine a été bombardée, il restait 80 appareils en cours de montage, ils les ont tous détruits. Donc, il y a eu aussi des Russes qui faisaient des V2 dans des sous-sols, des galeries souterraines pour les protéger des bombardements. Le système de téléguidage baignait dans un produit qui était translucide. Ils ont fait la comparaison, ça ressemblait à de l'urine au coup d'œil. Eh bien, ils ne se sont pas dégonflés. Dans ce système de navigation, ils foutaient de l'urine, ça ne marchait pas, ça partait, mais ça pouvait se retourner contre eux, et ça leur éclatait dans la figure. Donc, ça... voilà, disons que chaque fois qu'on a pu réduire quelque chose, bon, vous allez me dire, comment c'est... qu'est-ce que je pourrais vous dire? La résistance à la concentration. Après, comment certains d'entre nous se sont sortis là?
Je peux peut-être parler des marches de la mort.
Hein?
Les évacuations d'abord.
Ah, j'oubliais, je vous ai parlé de l'évacuation, je vous en ai parlé, mais je ne vous ai pas fait voir. Et là-dedans, on crève. On crève de chaleur, on crève d'air vicié.
Non, les marches de la mort, l'évacuation du corps.
L'évacuation, les marches de la mort. Y arrivent les Russes. Ils ont repris du poil de la bête. Il y a eu Stalingrad. Il y a eu Moscou qui n'ont jamais atteint. Il y a eu Leningrad qui n'ont jamais atteint non plus. Bon, les marches de la mort. Alors, au fur et à mesure que les Allemands perdent du terrain, ils crèvent. C'est l'hiver russe. Ils ne sont pas habitués. Et c'est là que les Russes déclenchent leur offensive. Avec le général Hiver, ils sont sûrs de réussir. Déjà, Napoléon y est passé, il n'y a pas de raison que Hiver n'y passe pas. Et il est à moi. Quand ils sont arrivés déjà, je suis au confinement de la Vartenoder, la frontière polonaise actuelle, on entend la mitraille. Trois jours avant, les SS nous ont dit, avec les chalis, de faire des traîneaux, avec des bandes de zinc, des traîneaux qui font deux fois cette table. On met tout leur chargement dessus, deux cordes, et six détenus à chaque corde pour tirer le traîneau. Voilà. Mon évacuation a commencé fin janvier. Il y avait à peu près 50 cm de neige. Sur les voies qu'empruntaient les réfugiés, cette neige s'était lassée et faisait l'épaisseur de verglas du travers de la mer. On est parti le matin à 7h. On est arrivé à notre commando le soir à 9h. On nous a hébergés là-dedans. La nuit, j'entendais grignoter. Je lui ai dit, il y a des rats là-dedans. Non. C'était les détenus qui avaient réussi à faucher des os pour la boucherie des SS. Il est grillé et il est rongé pour tromper leur faim. Les travaux qu'on a faits, c'est...
Non, on est sur l'évacuation.
Et
c'est l'évacuation. C'est
l'évacuation.
La liberté.
L'évacuation côté des Alliés. Les Alliés arrivent. Le débarquement à Normandie. Ah, on est heureux. On va être libérés. Pour Noël, on est chez nous. On y croit d'autant plus qu'on reçoit de la radio étrangère. Aussi étonnant que ça puisse paraître, en cas de concentration, on avait les nouvelles avant les Allemands. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait des détenus qui travaillaient à la réfection du matériel blindé, des camions, où il y avait des postes. Alors, en faisant le guet, ils écoutaient. Nous, dans notre chantier, où on travaillait à l'agrandissement de l'usine, pour pas prolonger les lignes électriques, ils ont mis un transformateur. Dans ce transformateur, la nuit, c'était deux Autrichiens qui travaillaient. Ils avaient réussi à se bricoler ou à faucher un poste avec lequel ils prenaient la Suisse, la Russie et l'Angleterre. La journée, c'était des détenus, des camarades à nous. Ils avaient convenu de l'endroit où ils faisaient un résumé de toutes ces informations et ils les planquaient dans une cache. Et quand ils revenaient, nos camarades, ils nous racontaient systématiquement tout ce qu'ils avaient reçu, tout ce qu'ils avaient appris. Et or, quand il y avait un camp de prisonniers, à peu près à 300 mètres de nous, à titre répressif, ils étaient là, ils chantaient. On a vu une chanson de détenus, de prisonniers, une chanson qui vous remonte le moral. Et on leur chantait, c'était eux qui commençaient, ou c'était nous, et nous, à notre tour, on répondait, et pas un tronc, quatre fois, ça se répercutait. Et on leur chantait le texte, c'est « dans le cul, ils auront la victoire. Ils ont perdu toute espérance de gloire, ils sont foutus, et le monde dans la Grèce répète avec Jean sans cesse qu'ils l'ont dans le cul. » Tout à l'heure, vous aurez le bon monde de tout ça. Alors,
bien sûr. On va vers la liberté.
Oui, les marches de la mort.
Comment ça s'est passé, etc.
Ces marches de la mort, comment ça s'est passé? Au fur et à mesure que les Alliés, que le territoire sous le contrôle des nazis se rétrécissait comme un pot de chagrin, sous la poussée des Alliés, à nous, ils nous évacuaient. On était de la main-d'œuvre à l'œil, de la main-d'œuvre qui leur rapportait. C'était leur salut. Avec de l'argent, on achète tout. On a acheté des Français. Pourquoi pas acheter déjà pour qu'ils se sauvent au dernier moment. Ce qui s'est fait d'ailleurs. Bon, alors.
C'est l'évacuation, les remparts.
D'abord, on nous, deux, trois jours après, deux, trois jours avant, on prépare tout. Et il y a le chef cuistot allemand, il a eu chat. Il a un tablier de boucher. Pendant les trois derniers jours, qu'on savait que notre sort allait être scellé, il se trimbala avec son chat dans son tablier, parce qu'on lui aurait tordu le cou, quelqu'un l'aurait bouffé. Alors, on a marché. Ces transports-là se font à pied par des voies secondaires pour laisser le maximum de mouvement. Ces transports-là se font dans des wagons minéraliers. Alors moi, à travers ces différentes déplacements, j'ai fait deux marches de la mort qui ont duré 2-3 jours chacune, et une marche dans un tempereau de charbon belge, beaucoup plus petit en surface, 80 de là. 5 jours le voyage, 5 jours, sans ravitaillement, sans eau. À telle enseigne, et ça c'est pas, on ne me l'a pas raconté, je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas vu, je l'ai vu devant moi, un gars n'en pouvant plus, tellement la langue enflée, les lèvres m'ont soufflé tout. Il crèvait de soif. Je l'ai vu pisser dans la boîte à conserve et boire au sang l'urine. Oui, on en est réduit à ça. Et on marche. J'ai perdu pendant ma déportation 30 kilos. Et je suis pendant les plus tôt quart. Il y en a qui ont marché, qui ont travaillé à des carrières. Il n'y a plus qu'un peu les jours. J'ai connu une femme de Ravensbrück qui était tombée à 28 kilos. Elle avait été envoyée de Ravensbrück en Tchécoslovaquie, où elle employait de la main-d'œuvre féminine et de la main-d'œuvre de gamins et de gamines, parce qu'ils avaient les doigts plus fins et plus agiles pour faire de la micromécanique pour les armements de guerre. C'est Siemens qui faisait ça. Siemens, dont je porte une prothèse auditive qui m'a coûté 2000 euros. Oui. Alors, je peux vous dire que je n'ai pas dans mon cœur. Voilà. Ensuite, après, combien il y en a qui sont marchés? Alors, qu'est-ce qui fait qu'on s'est sauvé? La solidarité, l'entraide et la foi, la volonté. Quand je parle de foi, je parle pas de la foi religieuse, je parle de la foi de croire à quelque chose. Il y en a qui ont la foi de leur parti. Il y en a qui ont la foi de l'homme. Moi, je dis, je suis ni politique ni religieux, mais je croyais à l'homme. Parce que parmi les camarades, j'ai vu des choses phénoménales, des entraides que vous ne pouvez pas imaginer, des aides qui mettaient votre vie en péril. Je me souviens, le petit Sierp, quand on arrive au camp de Flossembourg, entre chien et loup, il me dit, Jacques, je te prends la main, si ça te fatigue, tu me le diras, je te lâcherai. Il n'en pouvait plus, mais il n'osait pas me dire et devoir marcher, parce que quelqu'un qui n'en pouvait plus n'osait pas demander à Pierre Houppeux, à l'entourage, ou à ses copains, aide-moi, parce qu'il avait peur d'entrer dans la mort avec lui. Et je l'ai traîné, et on arrivait à un hall de montage d'avion. C'était une carrière de granit qui avait mis à feu aussi ce montage-là. On a couché sur le ciment. Et à l'entrée au portail, il y avait un SS avec une trique, on aurait dit un automate. On passait par cinq. Cinq passés. Il levait le bras. Les 50 passés, pam, ça tombait sur eux, avec une longue schlag qu'il avait. Et tout le temps, il faisait ça. Et moi, tenant par la main le Sierp, il est mort il y a une vingtaine d'années ici. J'ai de suite compté, remarqué à constater. Arrivé à une certaine distance, j'ai compté le nombre de rangs. J'ai calculé, rapide, et il faut faire. Hein. J'ai calculé que là ça tombait, là ça levait. J'ai calculé, à nous, si ça ne changeait pas, il allait lever la main. Et c'est comme ça que Sharp et moi, on est passé à l'évitant le coup de trique qui distribuait systématiquement sans aucune raison. Ensuite, on nous a mis dans le camp. Dans le camp, on a crevé de faim. J'étais dans un état second. Je vous dirais que la veille, avec trois autres camarades, on avait remorqué un des nôtres. Il était de bonne marchand aux impôts. Et il y avait un autre copain de moi dont les familles se connaissaient. On a venu toute une matinée. On marchait par des routes secondaires. Il venait d'avoir 20 ans. Et il se baissait. Il ramassait un pissenlit. Il le bouffait. Mais nous, on continuait à marcher. Il fallait continuer. Il nous suivait. Il trottait. Il se rebaissait. Il retrottait. Je lui dis, écoute, Paul, ce que tu crois récupérer avec les pissenlits, tu le dépenses trois fois plus. Tu vas crever avant l'heure, je lui dis. Arrête de ramasser pissenlit, tu fais comme nous. Alors on se soutenait. On se soutenait à deux, trois, quatre. Et ceux qui ne pouvaient pas marcher, on était en colonne par Saint-Saëns, encadrés par des SS et par des chiens et des armes automatiques. Et on marchait. Et tout d'un coup, on a traversé la Regen, un des premiers affluents du Danube. Le pont n'avait pas sauté. On traverse. Et on tourne. Je ne me rappelle plus si c'est à droite ou à gauche, mais je sais qu'on a suivi cette rivière en parallèle. On marchait, et tout d'un coup, est arrivé les blindés américains, qui n'étaient pas comparables aux troupes de choc allemandes. Ils marchaient au whisky, mitrailleuses jumelées sur la tourelle, torse nu, branches retroussées, et ils cravaient. Les SS, eux, ils se sont... Il y avait une colline de boisée, ils se sont éparpillés dans le bois. Nous, on s'est incrustés dans le fossé comme les morpions sur un malheureux, et chacun lardait peut-être pendant un quart d'heure. Je n'ai vu aucun détenu de toucher ou de blesser, tellement on était incrustés dedans. Ensuite, il y avait un chat. Et après, il y avait la rivière. J'ai bien ça vu. Et j'ai mon camarade Doma, qui était famille avec sa famille à lui, qui a repéré le nom des deux villages entre lesquels Donc, on le traînait. En le traînant, on perdait pied dans la colonne. Et on arrivait, de temps en temps, ils envoyaient une rafale pour équiler les traînards. Et on arrivait dans cette zone qui s'avérait dangereuse pour nous. Et on traînait cassou, un bras chacun autour et un qui se reposait. Et je disais à mon camarade Thomas, cassou, il est mort. Il avait les yeux fixes, il traînait les pieds comme ça. Il me dit non, il respire encore. Au cas où il aurait respiré, on a continué à traîner. Et à la fin, arrivé vers le fond, c'était vers 11h du matin, il y a une grosse brute, un SS, il a pénétré en dedans, il lui a arraché une balle dans la nuque faussée. Maintenant, tous ceux qui, dans la colonne, n'arrivaient pas à suivre, qui s'arrêtaient pour une cause ou autre, une balle dans la nuque faussée. À la fin, même, il ne foutait plus à les fossés, on ne les a jamais. J'ai ainsi été à côté d'un Italien de l'armée de Madoglio, en l'espace de René qui le sentait. En l'espace de quelques minutes, il m'a raconté sa vie. Il conduisait une locomotive, il faisait Rome-Naples, il avait deux filles, il était marié, et il conduisait sa locomotive. Et puis tout d'un coup, on aurait dit une mécanique que l'on bloque. Comme une voiture qui s'arrête, on ne sait pas pourquoi, il s'est bloqué. Pam, une balle à l'air. 5 minutes après, on était libéré. Donc, le petit cassou, on l'a perdu comme ça. Et mon camarade Thomas a réussi à relever le nom des deux patelins entre lesquels il était mort, le côté du de la route dans lequel, dans le sens de la marche, il avait été foutu à le foncer, et a relevé son matricule. Et quelques années après, quand ils ont relevé les corps, ils ont enterré comme ça, ils ont retrouvé ce corps-là avec le matricule qui est encore lisible, si bien que ce camarade qui est mort la veille d'être libéré, il repose dans le caveau familial, dans le vieux cimetière de Mont-de-Marsan.